C'était une expérience très intéressante parce qu'il y avait d'abord beaucoup de monde. Et puis ça m'a permis d'expliquer un peu ce qu'est le dialogue interreligieux et également les trois priorités qui me semblent, les trois défis qui me semblent importants de relever. Le défi de la pluralité, le défi de l'identité et le défi de la sincérité. Après, j'ai eu beaucoup de conversations avec les uns et les autres et j'ai vu que mon message a été bien reçu. Donc, il est important de nous rendre compte qu'évidemment, lorsque l'on dialogue, on est toujours un peu changé par ce qu'on reçoit des autres, mais on demeure soi-même, puisque l'identité spirituelle doit être très fermement et clairement affirmée, de manière à ce que le dialogue ne repose pas sur de l'ambiguïté. Et puis, profitant de mon séjour à Marseille, j'ai également rencontré le groupe du Chevalier des Saints-Sépulcres de la région Provence-Côte d'Azur. Et là, alors j'ai un peu expliqué la position du Saint-Siège sur le Moyen-Orient, le statut des lieux saints, et puis également j'ai donné quelques pistes de compréhension du prochain synode.
La ville de Marseille donc regroupe de nombreuses cultures, c'est un petit peu un carrefour au niveau culturel, au niveau des religions aussi. Est-ce que, en quelque sorte, ce message que vous avez transmis résonnait de façon encore plus particulière dans cette ville? Et quels sont un petit peu les retours que vous avez pu avoir, notamment des jeunes qui venaient témoigner de diverses expériences?
D'abord, il y avait des musulmans qui ont assisté à ma conférence. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y a un projet de construction d'une mosquée à Marseille, une grande mosquée qui pose certains problèmes. Et donc, je crois que les idées que j'ai données peuvent, disons, orienter les gens qui ont à prendre des décisions.
Vous venez donc de vous rendre à Marseille. Vous allez être très pris dans les prochains jours puisque dimanche s'ouvre le synode pour le Moyen-Orient. Évidemment, le dialogue interreligieux sera largement évoqué. Selon vous, quel doit être l'esprit de ce synode et qu'en attendez-vous?
Cette assemblée spéciale du synode a pour but d'encourager les chrétiens afin qu'ils demeurent sur place. Parce que nous pensons que ce serait dramatique que cette région du monde, qui est la terre de la révélation, soit dépeuplée de ceux qui sont les descendants de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Donc, moi, je dis toujours, il faut que les chrétiens du Moyen-Orient réalisent qu'ils ont été plantés par Dieu dans cette région du monde pour y fleurir. Évidemment, c'est une très belle image, mais la réalité est plus difficile. Donc, ils doivent sentir la solidarité de l'Église universelle, ce qu'exprime d'ailleurs l'Assemblée du Synode, puisque le pape est là, les évêques, avec ses collaborateurs. Et ensuite, évidemment, regarder vers l'avenir. Or, l'avenir, on doit passer de la peur de l'autre à la peur pour l'autre, comme je dis. C'est-à-dire on doit de la méfiance à la bienveillance, de manière à voir quelles sont les aspirations légitimes que l'on peut, disons, soutenir chez les autres, de manière à ce que leurs intérêts légitimes deviennent nos intérêts légitimes. Ça peut passer de la peur de l'autre à la peur pour l'autre. La tolérance, ce n'est pas suffisant. C'est la charité, c'est l'amitié qui doit prévaloir, puisque si nous sommes une famille humaine, dans une famille, on ne tolère pas son frère ou sa sœur, on les aime.
Et alors que ces derniers jours, ces dernières semaines, les menaces d'attaques fondamentalistes se multiplient, notamment en Europe, est-ce que justement ce message de paix, ce message d'écoute de l'autre est particulièrement important, encore plus important?
Je dirais que oui, parce que comment peut-on envisager l'avenir si tous les problèmes sont résolus par la force du poignet avec des armes? Ce n'est pas digne de l'homme. Nous avons, moi je dis toujours, un arsenal juridique de conventions qui permettent de résoudre tous les problèmes sans coup férir. Il suffit d'appliquer les thèses que nous avons signées. Et donc, j'espère que le synode aussi encouragera cette lecture, disons, des choses de manière à ce que tous les gestes que nous pourrons accomplir soient soutenus par un arrière-fond juridique que c'est un patrimoine commun que tous les pays du monde ont, à part quelques pays, c'est quelques rares pays. Donc moi j'estime que ce synode devrait être un synode qui appelle à la confiance en Dieu et à la confiance en l'homme.
le conflit israélo-palestinien cristallise un petit peu toutes les tensions. Vous vous êtes rendu avec le pape en Terre Sainte par rapport à ce dossier très lourd. Qu'avez-vous envie de communiquer ?
Alors, je crois qu'un des pièges de ce synode, ce serait de s'attarder sur l'analyse de la situation sociopolitique. Parce que c'est un synode qui a comme visée un but pastoral. Donc nous n'allons pas résoudre le problème du Moyen-Orient, nous n'allons pas faire une analyse sociopolitique, ce n'est pas le but. Il est évident que la non-résolution de la crise israélo-palestinienne influe beaucoup sur les travaux du synode, comme elle influe beaucoup sur la vie quotidienne des gens de cette région. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres comprennent, c'est que si on continue comme cela, cette espèce de guerre d'usure, eh bien à la fin tout le monde sera perdant. Le pape Jean-Paul II disait toujours que la guerre, c'est une défaite pour l'humanité, quelque guerre que ce soit. Parce que c'est la synthèse de tous les mots, M-A-U-X. Donc, les croyants, je ne dis pas seulement les chrétiens, les croyants qui prêchent tous la fraternité, ont une responsabilité particulière parce qu'on ne peut pas être heureux les uns sans les autres et certainement jamais les uns contre les autres. C'est une phrase que je cite très souvent, qui est très banale, mais je crois qu'elle est à l'ordre du jour. J'insiste beaucoup avec mes interlocuteurs ces derniers jours pour dire, voyez, j'ai 67 ans. Prenez un Palestinien de mon âge et un Israélien de mon âge qui meurent demain, ils n'auront jamais connu un jour de paix. Et ça, vraiment, c'est une chose révoltante parce que c'est de la négation même d'un des droits fondamentaux. Personne humaine vivre en paix sur la terre.
Les églises d'Orient sont nombreuses, elles ont chacune leur particularité. Ce sont des églises d'avenir.
De toute façon, l'église à l'avenir. C'est que les communautés, elles passent par des hauts et des bas, mais je crois qu'il y a un renouveau quand même qui se fait. Moi, ce qui m'a impressionné dans les lignamentas, c'est de voir que les fidèles demandent à leurs prêtres et à leurs évêques d'être des modèles, des pères et des modèles. Et ça, je crois que c'est très symptomatique de la confiance et de la grande estime qu'ils portent à leurs pasteurs.
C'est le message que Benoît XVI a envoyé à plusieurs reprises.
Voilà. La cohérence chrétienne dans le monde non chrétien, nous devons être des foyers de lumière, en quelque sorte, ces espèces de petits lumignons qui brillent, comme dit Saint-Pierre d'ailleurs, dans les ténèbres, nous sommes la lumière.
Éminence, une question par rapport à cette rencontre qui se tient aujourd'hui au Parlement européen, un sommet à l'initiative notamment de la COMECE qui concerne les persécutions des chrétiens dans le monde. Est-ce qu'il y a une situation, un pays qui est plus particulièrement alarmant selon vous ?
Bien sûr, je pense par exemple au Pakistan ces jours-ci. Enfin, et moi j'ai reçu hier des personnalités musulmanes et je leur ai dit, voyez, vous nous mettez dans une situation très inconfortable parce que moi, souvent, on me dit, vous voyez, votre dialogue, voilà où ça conduit. Un évêque assassiné en Turquie, des chrétiens brûlés, c'est des maisons détruites, enfin. Donc, il faut un minimum de cohérence. Quand on se dit croyant, on ne peut pas tuer, violer, détruire. C'est quelque chose qui est injustifiable et intolérable. Alors, dans ce contexte-là, je peux annoncer déjà qu'au mois de novembre, je me rendrai au Pakistan à l'invitation des évêques.